Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Je m'appelle François Doyon-Larochelle et je suis gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 11, dans l'actualité, les SPAC comme véhicule d'entrée en bourse des fonds de capital de risque. Ensuite, sommes-nous dans une bulle boursière? Comme troisième point, le bon conseil du jour, éviter de vendre à découvert. Et finalement, nous répondons à la question d'un auditeur qui se demande quel est le rôle des actions de petite capitalisation dans un portefeuille. Nous vous remercions de vous joindre à nous aujourd'hui. Bon épisode! Bon, je vous présente comme à l'habitude mes bien chers confrères James Parkin. James est gestionnaire de portefeuille avec PWL Capital. Bonjour James.
Bonjour François.
Et Raymond Carzero. Raymond, c'est notre directeur de la recherche. Salut Raymond.
Salut François.
Bon, ben c'est parti. On va parler de l'actualité. Donc, Raymond, les SPAC comme véhicule d'entrée en bourse des fonds de capital de risque. Peux-tu nous parler de ça?
Oui, bien sûr. J'avais envie de revenir un peu sur le phénomène des SPAC dont on a parlé dans un épisode récent. Donc, les SPAC, c'est les fameux Special Purpose Acquisition Corporations, ou on appelle ça aussi les compagnies chèques en blanc. Selon Wall Street Journal, les SPAC ont été largement utilisés comme porte de sortie pour les fonds de capital de risque et pour lancer en bourse des compagnies de technologie propre en 2020. En effet, les jeunes pousses, qu'on appelle en anglais les startups, qui se lancent dans le secteur des technologies propres, c'est souvent des entreprises qui exigent des sommes énormes de capitaux, par exemple pour développer la conception et la fabrication de véhicules électriques. Donc, ça requiert des milliards de dollars. En se fusionnant avec un SPAC, ces firmes peuvent accéder à une source abondante de capitaux sans devoir faire de multiples rondes de financement privé au fur et à mesure de leur développement. De plus, ça offre une porte de sortie pour les fonds de capital de risque pour liquider leurs investissements dans ces jeunes sociétés. Je voulais souligner, selon la banque d'investissement spécialisée Nomura Green Tech, 30 sociétés œuvrant dans le domaine des technologies propres ont fusionné avec des SPAC en 2020, puis ce serait seulement le début. Bon, selon moi, c'est très bien qu'on développe des nouveaux véhicules de financement pour les jeunes entreprises à haut potentiel. C'est vraiment très bien. Toutefois, pour nos auditeurs, de notre point de vue d'un investisseur à long terme qui est prudent, je trouve que ces derniers développements démontrent encore une fois à quel point le marché est réceptif à prendre des risques importants à l'heure actuelle. Et c'est exactement le genre de période où je ferai très attention d'être en conformité avec ma politique de placement, de ne pas être davantage exposé au risque que ce qui était mis par écrit dans ma politique de placement.
Merci Raymond. Bien, je pense que ça fait une belle introduction pour notre prochain sujet. James, est-ce qu'on est dans une bulle spéculative sur les marchés boursiers?
Ah ben, écoute, tout le monde veut savoir la réponse à celle-là. Sommes-nous dans une bulle financière? Fait que on a peur parce qu'une bulle, ça éclate. Fait que si ça éclate, on va perdre la valeur. Fait que encore une fois, la peur de perdre s'empêche plusieurs à investir en ce moment. Parce que, ah, ça se peut pas, le marché fait des records, il est cher. Ça va baisser. La situation de la pandémie, il y a encore des manchettes qui sont très négatives. Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? Ça n'a pas de fin. Fait qu'en fait, oui, des manchettes des médias hurlent, les marchés sont à des nouveaux records, les actions de compagnies appelées meme stocks comme GameStop, on en a parlé, moi, dans le dernier balado, dans les actualités, ces actions-là fluctuent à l'extrême et influencées par les propos de boursicoteurs qui affichent sur les médias sociaux. Donc, c'est normal de penser que l'on serait peut-être dans un marché où la spéculation est excessive. Ajoutez à cela les histoires des compagnies de chèques en blanc, dont Ray vient de parler. La crypto-monnaie, on a vu hier le Bitcoin qui a dépassé 50 000 $. Moi, ça me dépasse. Le fameux économiste Nouriel Roubini, qui enseigne à l'Université de New York, qui a écrit le livre sur les Black Swans, les sirènes noires. Donc, les événements assez rares, lui, il dit, ben ça, c'est un schéma Ponzi, là. Fait que c'est tout ceci pour dire qu'on est dans une situation où on pourrait vraiment croire que les marchés sont en feu puis que ça serait très dangereux d'investir. Donc, comme vous savez, j'aime commencer à la base. Fait que c'est quoi une bulle financière et comment ou quelles sont les causes où on en arrive à ce qu'on a une situation de bulle? Bon, l'expression a fait son apparition il y a très longtemps dans les années 1700 en Angleterre où il y avait une compagnie qui était en bourse à l'époque qui s'appelait le South Sea Company qui avait eu des droits du gouvernement britannique en raison de développer dans l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, il y avait des droits économiques puissants et tout le monde s'est emballé avec cette compagnie-là. Il y a eu une flambée du prix à la hausse, puis là, whop, ça l'a éclaté. Fait que le gouvernement britannique à l'époque a décidé de passer une loi, The Bubble Act, pour statuer que, bon, si on voulait créer une compagnie puis on voulait être en bourse, il fallait avoir une raison d'être puis qu'il fallait qu'elle soit précis dans ce que ce serait cette compagnie-là. Sinon, on n'aurait pas notre droit d'opérer la compagnie. C'est encore drôle, à cette époque, les États-Unis n'avaient même pas de bourse. Hein? Fait que ce que l'histoire nous révèle par rapport à ces histoires-là, c'est qu'il y a toujours une composante importante de spéculation. Bien, un spéculateur, c'est quelqu'un vraiment qui achète un titre dans le but de faire un gain en capital et souvent à court terme. Et dans les bulles, on voit qu'à un moment donné, les gens ne se battent pas avec les fondamentaux. Et éventuellement, ça les rattrape parce que, je répète souvent, dans un marché boursier, ça prend un acheteur et un vendeur. Fait qu'à un moment donné, si nous autres, on veut vendre, c'est pas un seul créditeur d'un compte de banque. Il faut qu'il y ait un acheteur de l'autre bord. Fait que quand il n'y a plus d'acheteur, ben, le prix baisse. Ça fondre. Fait que, y a-t-il d'autres exemples de l'histoire? Oui, il y en a plusieurs. Ben, la manie des bulbes de tulipes en Hollande, ça, c'était pas un marché financier, mais ça en est devenu un parce que les gens investissaient et évidemment, ça s'est effondré. Vous vous rappelez les années 80 au Japon, où l'immobilier, c'est devenu des prix de fou. En fait, la propriété de l'empereur du Japon à Tokyo valait plus que toutes les fermes aux États-Unis. Fait que ça n'a aucun sens. C'était devenu fou. Pour la plupart de nous, nos auditeurs, ceux qui se rappellent, bon, mais c'est la bulle technologique, fin des années 90, début 2000, ce qu'on appelait le « dot-com bubble ». Et donc ça, hein, y a-t-il ça c'est un exemple concret de bulle des marchés financiers récents. Il y en a-tu qui se rappellent du titre qui s'appelait Pets.com où, et évidemment, c'était d'Afrim, puis ça a dégonflé. François, tu voulais faire un commentaire?
Oui, bien, il y a pas... Tu veux dire? Oh, excuse-moi, faire un commentaire en même temps.
Je vais y aller. Ben, il n'y a pas Eugene Fama qui a mentionné, ben oui, ça existe des bulles, mais on peut juste les identifier une fois qu'ils ont éclaté.
Tout à fait. Tout à fait. Parce que lui, c'est le père de la finance moderne. Il a gagné le prix Nobel en 2013 avec ses notions de l'efficience de marché. Fait que je vais en parler un peu plus tard dans mes propos, mais oui, c'est effectivement seulement après coup, parce qu'à un moment donné, on ne sait pas quand la musique va arrêter, puis il n'y aura pas d'acheteur, puis ça va s'effondrer. Fait que tant que le monde achète, puis ça monte, c'est bon. Quand il n'y a plus d'acheteur, ben, le prix s'effondre. Fait que on peut donc adresser la question des bulles sous un autre angle. Puis il faut partir à la base de comprendre c'est qui un investisseur puis c'est qui un spéculateur. Ça peut paraître anodin, très simple en fait, mais ça ne l'est pas parce que deux personnes qui achètent une valeur peuvent la faire pour des raisons spéculatives, la même valeur ou des raisons de placement à long terme. Fait que pour plusieurs, le facteur déterminant serait qu'un investisseur a une perspective d'être propriétaire d'un actif pour le long terme. On appelle un investisseur. À l'opposé, le spéculateur, c'est plus l'appât du gain et souvent à court terme. Donc, il va transiger à profit. Parce que les investissements, on fait juste des investissements pour faire des profits. On ne fait pas des investissements pour perdre d'argent. Fait que c'est encore drôle, mais la recherche académique a clairement démontré que les marchés financiers profitent de la participation des deux intervenants. Chacun ajoute à l'efficacité des marchés financiers. Fait que certaines gens pensent « Ah, les spéculateurs, c'est mauvais », mais c'est pas vrai. Les spéculateurs peuvent déchiffrer des choses dans les deux sens, qu'ils soient spéculer sur vente à découvert ou spéculer en faisant augmenter une valeur. Ils ont leur rôle à jouer. Un des grands penseurs dans l'histoire de l'analyse financière, Benjamin Graham, qui écrit co-écrit avec M. Dodd le livre sur les valuation dans les années 30, vraiment une bible de l'analyse financière. Il a aussi écrit un livre pour Monsieur, Madame, tout le monde qui s'appelait The Intelligent Investor, un grand classique. Puis lui, à l'époque, puis en fait, il y a eu plusieurs éditions de ce livre-là, il s'inquiétait que le terme investisseur, ben, ça s'appliquait à n'importe qui achetait des actions en bourse. Fait que c'est on mélange spéculateur puis investisseur. Fait que c'est vraiment pas facile de faire la distinction. Fait que nos auditeurs savent que nous, on croit dans l'efficience des marchés. Puis revenons, le concept, c'est que le prix des actifs vont anticiper rapidement toute nouvelle information. Donc, c'est très difficile de battre le marché. Pourquoi? Parce que le marché va réagir plus rapidement qu'on le pense sur des nouvelles ou en anticipation de nouvelles. Donc, l'efficience des marchés, c'est basé en fait sur la notion de la sagesse des foules, qui est un concept en mathématiques basé sur la loi des grands nombres. Puis la théorie veut que les gens, quand on agit, nous, collectivement, on est plus intelligent qu'un expert individuel quand ça vient à des prévisions de marché ou la prévision de l'évolution du cours d'un titre en bourse. Mais là, on a le phénomène GameStop et on dit, ben voyons donc, où est-ce qu'est la sagesse de la foule avec ça, là? Et en fait, c'est le comportement des spéculateurs, c'est à certains niveaux très irrationnel. Peut-être ceux qui sont rentrés au début, qui ont vu « Hey, on a une situation qu'on peut manipuler ici contre les grands fonds à découvert. » Puis on peut se faire, puis ils se sont fait, selon ce que les médias ont rapporté, des millions. Mais par après-coup, on a vu que GameStop est parti à une compagnie qui faisait à tout un pratique pas de profit du jour au lendemain, presque valait 23 milliards de capitalisation boursière. Fait que ça, c'est pour moi... Ça fait penser à un autre grand classique, un livre qui a été écrit en 1841 par un écrivain écossais qui s'appelle Charles Mackay. Et son livre s'est intitulé « Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds ». Donc, pour moi, GameStop, c'est un exemple où la foule n'est pas trop brillante, là. Fait qu'il faut vraiment comprendre la différence entre un spéculateur et un investisseur puis l'angle que les gens... prennent quand ils font ça. Alors, des exemples de bulles et des croyances autour des bulles, mais aujourd'hui, souvent on entend et on écrit que les bulles sont attribuées au fait que les taux d'intérêt sont trop bas. Parce que les taux d'intérêt sont trop bas, ça ne coûte pas cher à emprunter. Avec de l'argent emprunté, on peut investir et on va faire des gros profits parce que notre mise de fonds, c'est le coût d'intérêt, c'est pas le capital lui-même. Fait que oui, des bulles dans les actifs, ça peut être propulsé par l'accès facile au crédit. Fait que on l'a vu dans le cas de GameStop avec le courtier Robinhood où ils ont donné accès à des comptes marges à du monde et puis pouvant faire des transactions sans frais d'achat. Il y a un deuxième exemple de croyance, c'est que la psychologie de marché, le sentiment qu'on appelle là, des investisseurs est très, très important. Fait que chaque boursicateur croit qu'il peut vendre à un prix meilleur que le prix qu'il a payé. Fait que la notion, c'est que les gens développent une manie, puis là, ça s'emballe, puis ça continue. Puis plus ça avance, plus les gens pensent que c'est bon. Prenons l'exemple d'Apple. Mais t'sais, on a des clients qui ont acheté ça dans leur compte non géré à beau bon pas cher, il y a 12-15 ans, puis ça vaut plus d'un million. Puis regarde, je suis brillant, j'étais acheteur, j'ai détenu, j'étais un investisseur. Mais en même temps, ce n'est pas prévisible, ce genre de choses-là. C'est aléatoire. Donc, le sentiment, en anglais, on dit le momentum, la liquidité dans les marchés, ce sont des gros facteurs qui peuvent supporter des bulles. Et présentement, les sentiments, le momentum, c'est que les gens ont un très grand appétit pour le risque, puis à cause des politiques monétaires. Puis maintenant que Trump est plus au pouvoir, monsieur, le nouveau président Biden, il a son programme de stimulus fiscal, c'est énorme, la liquidité qui est dans le système ou qu'il va avoir sous peu. Donc, la question se pose, la bulle financière la plus récente qu'on a vue, c'est 2000. On peut-tu prendre des leçons de cette bulle-là? Effectivement, aujourd'hui, en fait, si on regarde les cinq plus grandes compagnies au niveau de capitalisation boursière aux États-Unis, Apple, Amazon, Microsoft, Google, Facebook, tout le monde les connaît, et ça représente 18 % de la capitalisation boursière. Mais, phénomène intéressant, ils représentent 25 % des profits. En fait, ces compagnies-là, c'est quasiment des monopolies dans leur secteur. Ils font des profits qui sont absolument extraordinaires. C'est des machines à cash, à fabriquer du cash. Fait que le prix de ces actions-là sont chers. Ils sont chers relativement au reste du marché. Fait que c'est vrai de dire qu'ils sont de bien meilleure qualité que les plus grandes compagnies au sommet de la bulle technologique. Peut-être à l'époque, Microsoft était là, mais exception de Microsoft, Apple à l'époque, c'était rien. Là, c'était une compagnie quasiment à faillite, puis Steve Jobs qui revenait pour sauver les meubles. Alors, vraiment, aujourd'hui, c'est ce qui est très différent. C'est que les plus grandes compagnies qui dominent, c'est vraiment, sur le plan des modèles d'affaires, sont presque imbattables dans leur créneau. Fait qu'il fut un temps, il y a très, très longtemps, on disait, écoute, so goes GM, so goes the market. Traduction libre, c'est que si GM va bien en marché, ben le marché va bien faire. Puis on sait ce qui est arrivé avec la compagnie fabricant d'automobiles GM. Aujourd'hui, la même chose. Les perspectives économiques de ces cinq grandes sociétés-là vont être très influentes sur le cours des marchés. Et s'il y avait un revirement dans leur situation ou leur modèle d'affaires, mais évidemment, ça pourrait avoir un impact assez important. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut voir ou prédire avec ce qui est évident aujourd'hui, parce qu'avec la pandémie, ils continuent à vraiment très bien performer. Fait que peut-être, Raymond, je sais que tu as fait des recherches sur les cours multiples des marchés de la bulle technologique versus aujourd'hui.
Oui, tout à fait. J'ai regardé un peu les métriques. C'est quand même pas si alarmant que ça. Il y a les actions américaines qui sont un petit peu chères. Je vais y revenir. Mais on va commencer avec le marché canadien. Si on regarde le ratio CAPE de Scheller, donc le ratio cours-bénéfice ajusté selon les cycles boursiers, les actions canadiennes sont en ce moment 23 fois les profits, comparativement 61 fois en août 2000. Ensuite de ça, au niveau des actions américaines, c'est un peu cher, mais on était quand même pas mal moins cher par rapport au sommet de la bulle de 2000. On est à 34 fois les profits, comparativement à 47 fois en mars 2000. Si je regarde le marché européen, on est à 19 fois les profits, contre 43 fois en 2000. Encore, c'est assez saisissant, mais pas autant que le marché japonais. Le marché japonais, lui, est actuellement à 23 fois les profits, ce qui est plus élevé qu'en Europe, mais en mars 2000, il était à 85 fois les profits. Juste pour compléter, juste une couple d'observations, les marchés émergents en ce moment sont à 15 fois et demi les profits. Là, je ne vous fais pas la comparaison avec la bulle des .com parce que ce n'est pas très pertinent. Les marchés émergents n'avaient pas vraiment encore gagné leur lettre de noblesse en 2000. Mais je vous mentionnerai, donc 15 fois et demi, c'est quand même pas super dispendieux. Et je mentionnerai par contre un autre indicateur que j'ai tendance à regarder beaucoup, c'est les écarts de rendement sur les obligations à rendement élevé aux États-Unis, donc les obligations plus spéculatives. À l'heure actuelle, c'est quand même assez serré. On est à 350 points de base des Treasuries. La moyenne à long terme, c'est autour de 500 à 500 point de base au-dessus des treasuries. Donc, c'est serré, mais ce n'est pas au plus serré. Au plus serré, on va aller en bas de 300 points de base. Donc, plus que l'écart de rendement est bas, plus que ça veut dire que les investisseurs sont prêts à investir en dépit de taux d'intérêt relativement modestes offerts par les obligations à rendement élevé. Donc, pour conclure, de mon point de vue, si on regarde les métriques puis qu'on les compare à ceux de la bulle, on est encore bien en bas. Là, aux États-Unis, on est un petit peu plus élevé. Mais il faudrait garder à l'esprit, je pense l'avoir mentionné plusieurs fois sur le balado, que la croissance des bénéfices qui a été très importante là, aux États-Unis dans les 10 dernières années. Donc, c'est un petit peu normal là, de voir des multiples d'évaluation aux États-Unis être élevés dans un contexte où les profits se sont accrus rapidement.
Merci, Ray. Écoute, tout le monde se pose maintenant la question, bon, mais si on est dans une bulle, qu'est-ce qui va se passer si en bon québécois, la bulle, elle pète? Ben, écoute, souvent, sur le plan économique, pas grand-chose. Le meilleur exemple, c'est le crash boursier de 1987. Et l'économie a continué à très bien faire. On a vu en 2020, le marché peut faire autre chose que ce que l'économie fait. Puis, ah, regarde, on va sortir de la pandémie, la troisième vague, ça ne sera pas si pire, l'économie va bien, mais le marché, lui, il va moins bien. Encore une fois, ce n'est pas une prédiction en passant, c'est juste, ça peut, le disconnect entre le marché et l'économie, ça, c'est un fait qu'on a adressé dans nos balados à l'automne dernier. En fait, les bulles les plus dangereuses sont celles qui ont été historiquement à la base de crédits faciles où les gens ont emprunté. Puis quand les valeurs, les actifs achetés avec le crédit ont baissé, bien les gens se sont retrouvés les culottes à terre et c'est là que c'est très difficile à se remettre. Fait qu'aujourd'hui, en fait, l'économiste Robert Shiller écrivait récemment que les obligations sont très chères, donc les taux d'intérêt sont bas, les actions sont chères aux États-Unis, on parle, et l'immobilier a beaucoup repris de la valeur aux États-Unis. Fait que t'as les trois marchés, puis au Canada, évidemment, l'immobilier résidentiel, c'est des prix de fou, puis les gens font des rénovations, puis ils empruntent. Fait que c'est à faire attention. Donc, si la bulle pète, souvent économiquement, ça ne sera pas si grave que ça. Pourquoi? Ben aussi, il y a un fort pourcentage de la population, et ça nous surprend quand on entend ça aux États-Unis, qui n'ont pas de placement. En fait, les écarts de richesse aux États-Unis, les statistiques sont épouvantables, c'est décourageant. Au Canada, c'est mieux, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de placement boursier autre que les crédits qu'ils ont dans leur fonds de pension avec l'employeur ou leur caisse de retraite. Et fait que effectivement, si la bulle pète, c'est peut-être pas si grave que ça. Pour l'économie, on parle. Donc, moi, j'aimerais revenir, pour terminer, sur des propos de quelqu'un qu'on respecte beaucoup, Feu, John Bogle, un des cofondateurs de Vanguard. Et il a dit en 2012 que je vais le dire en anglais, « Investing is on a time continuum ». Donc, c'est dans une continuité dans le temps. Et c'est très important de retenir ce concept. Et par ça, il voulait dire qu'il n'y a pas de début puis il n'y a pas de fin en investissement. Et donc, les marchés sont en mouvement constant. Et donc, je veux partager des dictons qui sont très importants, puis j'en parle souvent. Quand on achète et on vend des titres, c'est pas un seul créditeur dans un compte de banque. Ça prend un acheteur, ça prend un vendeur. Fait que Si on est brillant, puis on a acheté, on a spéculé, puis quelque chose fait un grand profit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce profit-là après? Donc, c'est là la continuité du monde, de l'univers du placement. C'est souvent, peut-être qu'on va se tromper par la suite des choses. Là, on a fait un bon coup, mais les coups par après sont moins bons. Et le deuxième dicton, c'est que la valeur d'un bien n'est que ce qu'on paierait à un acheteur. C'est que la valeur d'un bien n'est ce que paierait un acheteur. Et donc, si moi, je pense que ça vaut tant, mais c'est just too bad si je n'ai pas un acheteur qui est prêt à me l'acheter. Et c'est pour ça que quand on parle de crypto-manie, on parle de GameStop, on a le prix de l'or, c'est des valeurs transigées, ça n'a aucune valeur en soi eux-mêmes, réelle. Donc, il faut faire très attention. Donc, ce dicton est attribué à un économiste allemand, américain, qui s'appelait le Oscar Morgenstern. Et c'est très important. Si on pense à investir, est-ce qu'on est dans une bulle ou pas? Quelle est notre perspective? Allons-nous le faire comme investisseur ou comme spéculateur? Et qu'on pense qu'on est sur un continuum.
Oui, exactement. Laisser affecter notre stratégie parce qu'on pense qu'on est dans une bulle, c'est probablement une erreur parce que c'est une forme de spéculation. Puis spéculation, ça rime avec distraction, tant qu'à moi.
Très bien dit, Raymond.
Excellent. Merci, messieurs. Donc, comme prochain point, le bon conseil du jour, éviter de vendre à découvert. Donc, pour ceux qui s'intéressent à l'actualité financière, au cours des dernières semaines, là, il y a eu beaucoup de manchettes au sujet du phénomène GameStop. James a aussi abordé le sujet lors de notre dernier balado. Mais afin de mieux saisir pourquoi l'action de GameStop s'est envolée et partie de 19$ le 1er janvier pour atteindre 483$ le 28 janvier, il faut comprendre le principe d'une vente à découvert. Donc, c'est quoi une vente à découvert? La vente à découvert consiste à emprunter de son courtier des actions d'une entreprise qu'on juge surévaluée et de les vendre en espérant que le prix des actions baisse afin qu'on puisse racheter à un prix plus bas pour ensuite retourner les actions au courtier qui est prêteur. Donc, c'est un peu l'inverse de ce que les investisseurs font normalement, généralement, c'est d'acheter une action puis d'attendre que le prix monte. Donc, l'exemple, c'est je vends à découvert 1000 actions de la compagnie ABC à 10$ dans le but de les racheter plus tard à un prix plus bas. Donc, si je vends à 10$, que les actions baissent à 7 et que je rachète, je couvre ma position, je remets les actions à mon courtier et je fais un profit de 3$ par action, donc 3000$. C'est assez simple, c'est logique, mais attention, c'est une stratégie là, qui est à fort risque. Donc, car contrairement à l'achat d'actions qui comporte un risque limité de perte, c'est-à-dire sa mise de fonds, mais des gains potentiellement illimités, si le prix du titre monte, bien évidemment. La vente à découvert est tout le contraire. Les gains sont limités, mais les pertes sont théoriquement illimitées. Dans l'exemple précédent, le gain est limité à 10$ parce que j'ai vendu à découvert 10$ l'action. Et puis si l'entreprise fait faillite, bien c'est ça, ils vont être à zéro, donc je pourrais couvrir ma position. Mais les pertes peuvent être illimitées si le prix de l'action cesse de monter. Je vous ramène à GameStop. Si j'avais vendu 1000 actions de GameStop à découvert à 10$ et que le prix au 28 janvier était à 483$, puis moi je suis à découvert pour 1000 actions, ben là, si je veux me couvrir, là, ça va me coûter 483 000$. C'est pour ça qu'on dit que théoriquement, les pertes sont illimitées. Si le prix de l'action de GameStop continue de monter, bien évidemment, vous êtes capable de faire le calcul, mes pertes vont juste s'accroître. Donc, en plus des pertes illimitées, vous devez payer les intérêts pour les actions empruntées au courtier. Vous êtes aussi responsable de payer les dividendes s'il y a des distributions. Aussi, si le prix de l'action monte, vous devez aussi faire face à des appels de marge. Le courtier prêteur pourrait aussi vous demander le retour des actions prêtées, vous forçant à racheter à un prix qui est peut-être inopportun pour vous, c'est-à-dire un prix qui est plus élevé que le prix que vous avez vendu. Donc, pour revenir à GameStop, la raison principale pour l'augmentation fulgurante du prix de l'action pendant le mois de janvier, c'est que plusieurs fonds de couverture, des hedge funds, avaient vendu le titre de GameStop à découvert au 31 décembre 2020. Jusqu'à 134% des actions en circulation de GameStop avaient été vendues à découvert.
134%, oui, c'est ça, 134%. Peux-tu nous expliquer comment ça se peut qu'on puisse vendre plus d'actions que ce qui existe?
Bien, c'est 134% du float, c'est-à-dire c'est 134% des actions qui ont été émises et disponibles au public, et non de toutes les actions qui ont été émises. Car certaines actions qui sont émises, là, ils ont des restrictions de transactions, comme les blocs de contrôle de la haute direction, par exemple.
D'accord.
Donc, pour poursuivre, ce qui est arrivé par la suite, c'est dans le manuel là, des cours de finance, car il s'en suivait un mouvement social dans le forum Wall Street Bets, sur la plateforme Reddit, qui a incité les petits investisseurs à acheter le titre de GameStop. L'engouement spontané pour le titre a eu pour effet de prendre par surprise les fonds de couverture, les hedge funds, qui ont été pris dans ce qu'on appelle, dans le jargon, un « short squeeze ». Le « short squeeze » se produit quand le prix des actions monte, et plus il monte, plus les investisseurs qui ont vendu à découvert tentent à tout prix de racheter l'action, ce qui entraîne là, encore plus le prix de l'action à la hausse et qui augmente par le fait même là, les pertes pour ceux qui ont vendu à découvert.
Les pertes font boule de neige, hein?
Tout à fait. Donc, si j'avais vendu, mon exemple précédent, vendu 1000 actions de GameStop à 10 $, OK, monte à 15, ma perte est limitée. Mais quand ça monte à 200, 300, 400, là, on voit que les pertes, puis là, c'est OK, je veux couvrir, je veux limiter mes pertes, donc j'essaie de racheter. Mais l'offre puis la demande, j'achète, puis les gens veulent tous acheter en même temps. Ça fait monter les prix. Donc, GameStop, ce qui voulait une belle histoire de David contre Goliath, mais détrompez-vous, là, la pote du gain a fait perdre plusieurs milliers de dollars aux petits investisseurs, puis Wall Street a su en bénéficier de la hausse éclair, puis aussi de la vente, mais de la baisse qui s'en suivit, parce que rendu à 400 $, là, c'est sûr qu'il y a des gens sur Wall Street, d'autres firmes de hedge fund ou d'autres hedge fund ou d'autres firmes de
couverture.
Donc, merci Raymond. Ont vendu à découvert là, quand c'était rendu à 400 $. Donc, eux ont profité de la baisse qui s'en est suivie. Donc, la morale de cette histoire, il ne faut pas confondre l'excitation et la spéculation avec l'investissement. Que ce soit GameStop ou un autre titre, là, laissez-vous pas tenter et surtout pas par les ventes à découvert. Donc, notre prochain sujet, c'est la question de l'auditeur. Quel rôle des petites capitalisations dans votre portefeuille?
Oui, donc c'est à mon tour. Merci François. Donc juste pour compléter un peu la question, notre auditeur nous dit, on me dit que les FNB indiciels de petite capitalisation souffrent d'un problème structurel. Quand un titre dépasse une capitalisation boursière de 1,75 milliard au Canada, il doit sortir de l'indice. On se retrouve à vendre nos titres gagnants et ça mine le rendement selon mes sources. Qu'en pensez-vous? Donc, il faut d'abord mettre la table un peu quand on parle de titres de petite capitalisation. Selon mes recherches, c'est des titres qui ont livré un rendement excédentaire au-delà des rendements des actions de grande capitalisation. Le différentiel aux États-Unis, j'ai 1,6%. Donc, 1,6% depuis 1926 de rendement excédentaire. Par contre, ce n'est pas statistiquement significatif. La raison pour laquelle nous investissons dans les petites capitalisations, PWL, il y en a deux. Premièrement, les petites capitalisations, elles ajoutent à la diversification du portefeuille, ce qu'on trouve bien intéressant. Et l'autre chose, c'est que nous, on est des investisseurs qui mettons l'emphase sur les titres de valeur. On surpondère les titres de valeur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet valeur ou la prime valeur est beaucoup plus présente dans les des actions de petite capitalisation que dans les grandes. Donc, tout naturellement, quand on est un investisseur valeur, il est tout naturel également de mettre de l'emphase sur les petites capitalisations.
Raymond, peux-tu nous expliquer comment on implante ça dans nos portefeuilles ici?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien important. Puis c'est un élément qui est soulevé par la question de notre auditeur. C'est que lui, il fait l'hypothèse qu'on investit dans les petites capitalisations en investissant dans un FNB ou un fonds commun de petites capitalisations. Puis moi, ce que je suggère, puis ce qu'on fait dans notre firme depuis nombreuses années, c'est que quand on investit dans les petites capitalisations, on prend une approche qui est intégrée. Donc, généralement, un fonds qui va l'intégrer, ça va être pour la plupart des gens, ce qu'ils peuvent faire tout simplement, c'est acheter un bon vieux FNB de marché total. Je vous donne quelques exemples. Le ZCN pour les actions totales de marché canadien. Il y a le VUS pour les actions américaines. Il existe aussi un FNB de marché total pour les actions internationales des pays développés. Le ticker, c'est VIU. C'est un FNB de Vanguard. Donc, nous, on préfère avoir les petites capitalisations intégrées dans un seul et même portefeuille de marché total pour éliminer les coûts fiscaux reliés à la migration. On prend un exemple concret. Je détiens un fonds de grande capitalisation, un autre pour les moyennes capitalisations, puis un troisième pour les petites capitalisations. Lorsqu'un titre du fonds petite capitalisation, admettons, prend énormément de valeur, à un moment donné, il n'est plus une petite capitalisation, il est rendu trop grand. Donc, c'est la barre du 1,7 milliard dont on parlait dans la question tout à l'heure. Il devient une moyenne capitalisation. À ce moment-là, le FNB de petite capitalisation doit revendre ce titre-là parce qu'il n'est plus éligible à l'univers des petites capitalisations. Puis, en même temps, le FNB de moyenne capitalisation doit acheter ce titre-là. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que le fonds de petite capitalisation, en vendant le titre qui s'est beaucoup apprécié, va réaliser un gain de capital imposable. Et moi, comme détenteur du FNB de petite capitalisation, il est probable que cette facture d'impôt-là va m'être refilée. Au contraire, si j'investis dans les petites et les moyennes capitalisations par l'intermédiaire d'un fonds de marché total, il n'a plus cet effet de migration-là. Je détiens le marché total, donc le fait qu'un titre passe de petite à moyenne ou de moyenne à grande capitalisation ou l'inverse, ça ne change absolument rien dans la gestion de mon portefeuille. Ça n'engendre pas de transactions et donc pas de coûts fiscaux pour nous. C'est pour ça que nous, on suggère aux investisseurs d'investir avec un fonds de marché total. Oui, François?
James, tu as une question?
Oui, bien écoute, Ray, peut-être qu'on pourrait utiliser l'exemple de Tesla, la compagnie de manufacture des voitures électriques bien connue, qui est passée d'une petite capitalisation à une grande pour être inclus récemment dans le Standard & Poor's 500 comme indice. Donc, pour moi, ça, c'est un exemple concret qui illustre ce que tu viens d'expliquer.
Oui, Tesla, c'est un cas particulier parce que c'est passé d'une petite à une grande capitalisation dans le temps de l'éclair. Là. En un an, elle est passée de petite à grande capitalisation, ce qui est phénoménal. Donc, les firmes d'indices comme Standard & Poor's, ils se posaient bien des questions. Quand est-ce qu'on l'intègre dans l'indice S&P 500? Est-ce qu'on l'intègre maintenant? Est-ce qu'on attend un mois? Quand est-ce qu'on fait ça? Donc, effectivement, puis il y a eu un peu ce phénomène-là après que juste quand ils ont annoncé que le titre serait intégré à l'indice S&P 500, le titre a monté en valeur. Mais quand il a été intégré comme tel, parce que souvent c'est annoncé à l'avance, quand il a été intégré comme tel, dans les semaines qui ont suivi, le titre a baissé en valeur. Donc effectivement, ça pose un problème dont les détenteurs de fonds de marché total n'ont pas été victimes.
Ça va être intéressant de voir là, l'impact sur le gain en capital sur les FNB de petite capitalisation là, l'an prochain. Là.
Tout à fait.
Bien, merci Raymond. Eh bien, c'est tout pour ce 11e épisode de Sujet Capital. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. N'oubliez pas de vous joindre à nous lors du prochain épisode alors que nous ferons une mise à jour à propos de la fiscalité de vos placements. James Parkin, Raymond Carzéro, merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise, votre sagesse.
Ça m'a fait grand plaisir, comme à l'habitude, François.
Tout le plaisir est pour moi, François.
Merci beaucoup à notre réalisatrice, Lise Laplanche, pour sa précieuse collaboration. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. D'ici à notre prochain rendez-vous, prenez soin.